Merci Luc. Souvent on me demande, mais est-ce que tu abordes d'autres thèmes, Pierre? Alors je vous rassure, oui. Mais il y a une chose est sûre, comme l'a dit Luc, je reviens toujours, j'aborde tous les autres thèmes à partir de ce fondement, ce point focal en fait, qui est la révélation de l'amour du Père. Et donc tout ce que j'aborde, toute autre étude que j'ai pu faire sur d'autres thèmes, je les ancre dans cette première révélation-là. Et donc toute une réflexion aussi sur le royaume de Dieu aussi est centrée sur l'eschatologie aussi, est centrée sur cet chapitre 15 de Luc. Quelque chose qui vous a marqué ce matin, en tout cas David a quelque chose à nous partager. David, tu veux venir, s'il te plaît? Hein? David m'a fait une remarque et je trouvais très pertinente sa remarque et je voulais donner l'occasion à David de partager ce qu'il m'a dit.
Donc, si tu vois le numéro 5 là, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Dans l'histoire, dans le verset 21, c'est juste après qu'il prononce cette parole qu'il est coupé. Et dans ma tête, j'avais plutôt l'idée que le père, au lieu de dire que ça c'est une phrase tout à fait juste à dire, que le père, il a éventuellement eu une réaction à cause de cette phrase-là. Et c'est là où il a rebondi avec la suite que Pierre va nous donner maintenant. Et c'est vrai que le numéro 6, on peut voir clairement que voilà, c'est quelque chose où on veut pas dire, on veut pas dire ça. On ne veut pas prononcer ce genre de propos. Mais je crois aussi le 5. Je crois un vrai cœur de père va dire, mais bien sûr tu es digne d'être un fils ou une fille. Et voilà. Donc c'était sur là que moi je peux envisager qu'il a rebondi avec coupe la parole. Je ne veux plus entendre de ce genre de propos et j'ai quelque chose d'autre à dire.
Vous voyez les deux options, je pense qu'on peut, c'est difficile de trancher. Soit le père voyait ce que le cadet s'apprêtait à dire, donc l'idée d'une préconnaissance du père, il va dire quelque chose, il va faire un caca religieux quelque part, et donc il faut absolument que je le coupe. Ou alors, effectivement, comme le dit très bien David, il est possible que cette première phrase-là était déjà inacceptable. Hein. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, donc il va couper la parole. Et de quelle manière il va le couper la parole? Du coup, on va le voir dans quelques instants, mais si vous préférez, avant qu'on voit le portrait du Père, que Jésus va nous faire du Père, et encore une fois, Jésus de l'intérieur du Père, qui sort du sein du Père, qui sort de l'essence même du Père, il va nous parler du Père en vérité, parce qu'il est le seul à avoir vraiment vu le Père en vérité, avant qu'on voit ce portrait-là, de cette révélation complète. Je voudrais que vous donniez la parole. Est-ce qu'il y a des points qui vous ont marqué ce matin? Ça nous aide à faire la jonction et pour ceux qui nous rejoignent, ça permettra de faire juste la soudure. Allez, dites-moi un petit peu ce qui vous a parlé, ce qui vous a... Oui. Une parabole inachevée, oui. Oui. Voilà. Exactement. Parole inachevée, parole ouverte, parabole ouverte. Qui montre que nous sommes invités à terminer avec notre vie, hein, le récit. Absolument. Et même dans le contexte, on peut imaginer que les scribes et pharisiens étaient appelés justement à la repentance, ou en tout cas à donner leur réponse aussi. Et cette parole qui est adressée aux scribes, aux pharisiens, elle nous est adressée aujourd'hui, 20 siècles après, de la même manière, je crois, avec autant la même intensité. Hein. Merci d'avoir remarqué. Oui? Oui, ça t'a plu, ça, Éphésiens 4-6. Hein. Le Père qui est caché en chacun d'entre nous et que finalement, le Christ est là pour nous montrer ce Père qui est caché à l'intérieur de nous. Hein. Demain matin, on citera saint Augustin qui le dit avec encore plus de force, vous allez voir, d'une autre manière. Hein. Oui? Oui? Esprit, oui. D'esclaves, oui. Exactement, oui. Mais je pense, oui, absolument. Oui. Vous savez, je pense que d'être libre de l'esprit de mercenaire hein, en nous, Vous savez, la différence entre un mercenaire et un fils, elle est celle-ci, c'est qu'un mercenaire travaille pour être accepté quelque part. Un fils travaille parce qu'il est accepté. C'est là toute la différence. Vous savez, un jour, il y avait une conférence à Mâcon, dans notre ville. Il y avait Ruth et Flynn qui étaient venus, vous vous souvenez, hein? Et je me rappelle, juste avant, il y avait deux personnes de notre église qui dansaient. Et alors, elles étaient habillées de la même manière, maquillées de la même manière, elles avaient la même chorégraphie. Mais mes amis, de toute évidence, il y avait une onction qui était sur une des sœurs et pas sur l'autre. Et alors que je regardais cette danse et je m'interrogeais sur le fait de pourquoi il y a une telle onction sur l'une et pas sur l'autre, alors que, encore une fois, elles dansent en miroir, elles sont magnifiques toutes les deux, elles sont bien habillées toutes les deux, maquillées pareil. Enfin, comment ça se fait qu'il y a une telle onction sur l'une et pas sur l'autre? Pourquoi la grâce est là et pas là? Et alors que j'étais en train de m'interroger là-dessus, le Saint-Esprit me dit, l'esprit sur lequel tu vois la grâce, c'est parce qu'elle danse parce qu'elle est aimée. Mais celle où tu ne vois pas la grâce, c'est parce qu'elle danse pour être aimée. Et ça, ça a été un message pour ma vie. C'est comme si le Seigneur me dit, et toi Pierre, qu'est-ce qui te fait danser? Garde plus que aucune autre chose les motivations finalement de ton cœur. Garde, travaille les motivations, parce que c'est de là que viennent la vie ou la mort. Ce que nous faisons pour être aimés va produire la mort, mais ce que nous faisons parce que nous sommes aimés va produire la vie. Donc le cadet ici, de toute évidence, c'est dans un délire d'essayer de mériter l'amour par le mercenariat, alors que la filiation, c'est une adoption qui ne se mérite pas. Hein? Quelqu'un d'autre? Oui? Hein? Oh. Oui. Voilà. Vous voyez, cette sœur qui est venue me parler à la pause me disait que pour elle, finalement, d'aimer le Père, ça a été l'objet d'une révélation, hein, d'une rencontre avec le Père. Et elle me disait, moi, je n'ai pas connu mon propre Père. Mon Père est décédé avant ma naissance. Hein? Et je lui dis, tu sais, tu es vraiment dans le cas, toi, tu n'as pu vivre que l'adoption. Ouais, elle n'a pas pu passer par le truchement de l'élévation d'un père terrestre, etc., d'une bonne ou d'une mauvaise expérience d'ailleurs avec un père terrestre, mais dans le fait juste d'être adoptée. Et finalement, cette parole, vous n'avez qu'un seul père, pour elle, c'est une réalité plus qu'évidente, quoi. Elle n'a qu'un seul père, c'est celui qui l'a adoptée. C'est son père céleste, quoi, qui du coup est devenu son père terrestre, par le même coup. Hein. Parce que l'adoption fait de nous des fils réels, mais fait aussi du père un père terrestre pour nous. Hein. Vous savez, dans ces séminaires, dans ce genre de séminaires, j'ai l'impression toujours que le Seigneur veut dire, basiquement, va leur dire, Pierre, que je veux être aussi leur père terrestre. Hein. Parce que père céleste, ça parle d'éloignement. Hein. Mais ce qui compte, c'est la communion. Hein. C'est ça que j'aimerais vous montrer. Et puis, on s'approche, hein, de cette communion. Croyez-moi, je sais où je vais et on s'y approche. Quelqu'un d'autre? Oui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, c'est super. Merci. Tu vois, si j'étais venu que pour toi, ça valait le coup. Alléluia. Alors, elle a reçu ce matin que c'est comme un flash, comme une révélation qu'elle était adoptée, parce qu'elle cherchait cet amour de père. Et ce matin, elle a réalisé cette adoption de la part du père, cet acte souveraineté sous sa vie, etc. Et ça a été... C'était magnifique. Ça, c'est une première étape. Il y en aura une deuxième pour toi. Tu seras là demain matin. Tu me promets, hein? Super. Eh bien, il y aura une deuxième étape pour toi demain matin. Crois-moi. Encore plus intime et ça va aller encore plus loin. D'accord? Hein? Voilà. Sinon, vous aurez le droit de vous faire rembourser demain matin, hein, auprès de Luc et Emmanuela. Oui, tu vois. Oui. Attends, bouge pas. Du coup, il y a cette câble pour toi.
Les mots mis sur la maternité de Dieu et ce lien d'attachement. Et ce lien d'attachement qui est énorme, qu'on connaît, qu'on voit, et que toutes ces mères ont. Et je me suis toujours dit, c'est tout simplement parce qu'on a été fait à l'image de Dieu, donc Dieu est mère. Mais là, c'est un autre apport, c'est trop beau.
Vous savez que cet attachement n'est pas que constaté par les chrétiens, il est constaté par des non-chrétiens, et même, ils identifient même une enzyme. Hein ? Ah oui, c'est ça, c'est l'ocytocine. Dites à votre voisin, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. L'ocytocine, voilà. L'hormone de l'attachement maternel, l'ocytocine. Et Dieu est un Dieu d'ocytocine. il s'attache à son peuple, hein, pas par l'ocytocine, quoique il n'y a pas de problème avec l'ocytocine, puisque c'est lui le créateur de l'ocytocine. Mais je dirais, vous savez, il y a cette ocytocine. Cette hormone de l'attachement, elle vient du Père des Lumières. Hein, et ce côté maternel, encore une fois, il y a plein de versets qui le montrent, est rempli dans l'Ancien Testament et montre une image de Dieu dont on a besoin aussi. Hein. Vous savez que vous avez entendu parler du comte Zinzendorf. Vous savez, celui qui est à l'origine des frères Moraves, lui, il a eu une telle révélation dans le Père, que le Père était aussi sa mère, et en particulier que l'Esprit jouait ce rôle maternel dans la Trinité, que pendant tout le temps où il exerçait son ministère et ce grand réveil qui envoyait des missionnaires partout, eh bien, il fêtait à la Pentecôte la fête de la mère de l'Église, et il fêtait le Saint-Esprit comme étant la mère de l'Église. À la mort de Zinzendorf, les disciples n'ont pas souhaité continuer parce que je pense qu'ils ont eu raison aussi d'une certaine manière. C'est que si le Saint-Esprit est effectivement à ce rôle aussi maternel, on l'a dit, dans la nouvelle naissance, dans la liberté et dans la consolation, qui sont trois thèmes qui forment un faisceau maternel finalement, eh bien juste enfermer quelque part uniquement l'Esprit dans un rôle maternel, c'est le limiter aussi à toute la paternité aussi et la masculinité de Dieu aussi que le Saint-Esprit aussi peut manifester. Donc ce n'était pas une manière de renoncer à la révélation qu'avait eu leur père spirituel, Zinzendorf, concernant la maternité en Dieu, mais c'était une manière de ne pas enfermer le Saint-Esprit, en tout cas une des personnes de la Trinité, dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai que si beaucoup de passages parlent de Dieu comme père, à aucun moment le mot mère est cité par rapport à Dieu. C'est toujours d'une manière indirecte. Hein. Il y a quelque chose d'indirect. Donc Dieu est ce père qui agit aussi comme une mère. Quoi. C'est pour cette raison, quand on me fait venir, souvent on me dit, tu vas nous parler du cœur, le cœur de ce père au cœur de mère. Alors moi, je préfère parler du cœur parental du Seigneur. Hein. Et d'ailleurs, dans les formations Master's Commission que je donne, qui sont données à des jeunes entre, on va dire, 18, allez, 28, hein, en gros, 18, 28 ans, ce sont des jeunes qui ont terminé finalement soit un premier cycle d'études supérieures ou terminé le bac et qui prennent une année à part pour le Seigneur, comme ça une sorte d'année charnière avant d'aller plus loin dans leur vie, qui s'arrêtent pour juste faire le point, etc. Une très belle formation que je soutiens de tout mon cœur. Et bien, dans cette formation-là, je dis toujours aux jeunes filles, s'il vous plaît, jeunes filles, épousez un homme qui a cette révélation que Dieu a un cœur de mère. Et alors je leur dis, pourquoi je vous demande ça? À votre avis, pourquoi je dis ça aux jeunes filles, après tout? Bon, je suis père de trois filles. Hein, donc, à votre avis, pourquoi c'est important que les filles épousent quelqu'un qui aura, en tant qu'homme, cette révélation que Dieu a aussi un cœur de mère, à votre avis? À cause de l'attachement, oui, tout à fait. Oui, exactement. Exactement, c'est la révélation anti-macho. C'est là où les machos tombent et se brisent, hein, sur cette révélation-là. Le machisme qui est dans la vieille nature masculine peut tomber définitivement sur cette révélation. Et du coup, la femme n'est pas vue comme une sous-catégorie de Dieu, mais comme la catégorie même du Seigneur. Intégrale, partie intégrale, intégrante, et intégral, les deux. Vous savez, dès qu'on commence à parler avec les bussières, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Partie, mais non, mais on dit toujours un autre mot. Partie prenante. Oui, c'est ça, partie prenante du Seigneur. C'est-à-dire que, vous savez, je vous montrerai une image dans quelques instants. Souvent, on a une image d'un Dieu comme ça, puis d'une forme de féminité qui est juste une sous-catégorie du divin. C'est abominable, quoi. Hein. Et malheureusement, dans l'islam, on a cette image-là. Et certainement que Allah n'a pas un cœur de mère, si vous voulez ce que je veux dire, quoi. Hein. Oups là. Alors, justement, nous allons avoir le premier portrait du Père. Il y en a un deuxième, malheureusement, que nous n'aurons pas le temps de voir. J'essaierai de l'évoquer quand même rapidement. Il y a un premier portrait qui nous est donné par rapport au cadet, puis on verra un deuxième portrait, peut-être, si on a le temps, en relation avec l'aîné. Mais là, ce qu'il nous faut voir, c'est le premier portrait que nous avons, qui nous est donné. Donc, encore une fois, rappelons que cette révélation nous est donnée justement par Jésus, qui est le seul réellement à avoir Jésus, vu le Père dans sa réalité ontologique, dans sa vérité, au travers aucun filtre humain. Il nous livre le Père. Alors, attention, il nous livre le Père sans aucun filtre humain, mais il nous le livre quand même dans un langage que nous pouvons comprendre, un langage humain. Et la première chose que l'on va voir, c'est que le Père se sacrifie. Je vous rappelle que l'image de Gott, par exemple, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, le mot allemand Gott a donné le mot God en anglais. C'est-à-dire que chaque fois que nos amis américains disent God, ils se réfèrent à Gott. Et là, forcément, neurolinguistiquement, ça veut dire qu'on pense à un Dieu qui réclame des sacrifices. Or, il est clair que là, Jésus va nous montrer, va complètement faire exploser le moule, en gros, en nous montrant qu'il n'est pas le Dieu qui réclame le sacrifice, il nous montre qu'il est le sacrifice lui-même. Parce que le premier verset que l'on voit de cette parabole, c'est le plus jeune dit à son père, « Mon père », donc la seule fois, il va dire au début « Mon père », et on a vu la deuxième fois, il le redit, c'est un peu plus tard, lors de son retour, mais là, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage », voici le mot en grec, « ousias », qui doit me revenir, et le père leur partagea, alors c'est bien « bion ». Vous voulez juste revenir sur ces deux mots, non pas pour faire le savant, etc., mais pour vous montrer l'intérêt du choix des mots de ce premier verset de Luc 15, verset 11, c'est que lorsque le mot ousias est un mot qui va avoir beaucoup de... Elle est où notre prof de philo? Elle n'est pas là, hein, Alice? Tu es où, Alice? Non. Pardon? Chercher une philosophe, là. et une helléniste. On en a une? Ah, très bien, très bien. Ousias, en tout cas, c'était plutôt du côté philosophique des choses, c'est que l'ousias, c'est le mot substance aussi en grec. Hein? C'est le mot substance en grec qui a eu un grand, qui avait déjà un grand avenir et qui a eu un grand avenir en philosophie. Hein? L'ousias, c'est la substance, c'est l'être profond. Alors, regardez, si on lit maintenant de manière philosophique le premier verset. « Mon père, donne-moi la part de l'ousias qui doit me revenir. » C'est-à-dire que le cadet demande l'être qui est dans le père, en fait, qui doit lui revenir. Et effectivement, dans chaque père, dans chaque parent, il y a quelque chose qui appartient à nos enfants. Il y a un ADN qui leur appartient. Il y a quelque chose que nous avons, que nous devons leur transmettre. Nous devons leur communiquer ce que nous sommes. Et pas seulement ce que nous avons. Et là, on voit bien que soit cette transmission va se faire dans l'honneur, la piété, le respect, ou alors il peut y avoir une revendication avant le temps, et à mon avis, toute crise d'adolescence, c'est une revendication avant le temps de ce qui appartient à l'adolescent, en fait. Vous savez, le diable, quand il ne peut pas empêcher quelqu'un de prendre ce qui... quand il ne peut pas... pousser quelqu'un, le diable, autrement dit, je vais dire autrement, le diable va toujours précipiter les gens à prendre ce qui leur appartient trop tôt. Parce qu'en faisant cela, il sait ce qu'il peut produire. Il peut détruire l'humain parce qu'il lui est donné précocement, alors qu'il sait que ça lui est destiné, vous comprenez ? Comme il ne peut pas empêcher le don, alors il va précipiter le don. Et en précipitant le don, eh bien, il s'assure comme ça que l'humain va être détruit par le don parce qu'en fait, il n'a pas la maturité pour le gérer. Autrement dit, tous les parents connaissent ça, c'est-à-dire que la période d'adolescence, et je voudrais parler aux ex-adolescents au milieu de nous, c'est que l'adolescence, c'est le moment où vous devez comprendre, l'adolescent doit comprendre que ce qu'il réclame est juste, mais il y a un temps pour ça, et il va falloir que tu attendes encore un petit peu. La gestion, l'autonomie financière, le sexe, c'est pour toi. Mais attends, laisse-moi te préparer. Laisse-moi te préparer à ce temps où tu pourras gérer cette sexualité, où tu pourras, parce que la sexualité, ça doit se gérer. Certes, ton corps t'appartient, mais il appartient à Dieu aussi. Il appartient aussi à l'honneur, et tu ne dois pas détruire ta propre image de toi-même en livrant ta sexualité trop vite, etc. Il y a une manière de faire. Donc, ce que tu réclames est juste au fond, adolescent. Mais ce que tu dois recevoir, tu le recevras plus tard quand tu auras appris à gérer. C'est exactement cette crise d'adolescence qui a aussi atteint l'humanité dans Genèse à cause d'Adam et Ève, qui finalement, Adam, il y a cette revendication au travers du truchement du diable de réclamer la connaissance d'une manière prématurée. Alors que cette connaissance, bien sûr, elle allait être offerte, mais dans une relation. Et du coup, cette connaissance a été offerte en dehors de la relation. Comprenez ? La relation, c'est ce qui allait sécuriser la connaissance. Et du coup, Satan est venu non pas empêcher la connaissance, mais il est venu empêcher que cette connaissance soit le fruit d'une relation. Comprenez ? Et là, on a le même fait. Donc, revendication de Lucias. Et quand on revendique la substance du Père, ça correspond à un meurtre symbolique. Et regardez la non-violence du Père ici. La non-violence du Père leur partagea alors c'est bien. Et le mot bien, ici, en grec, dans le grec, c'est bion. Et on sait que bion aussi parle de la vie. Donc, philosophiquement parlant, là, on a une approche philosophique du texte. Voilà ce qui se passe. C'est que le cadet demande la substance du père. Autrement dit, le cadet dit, je veux être comme toi, père, autonome. Je veux être à la tête de quelque chose. Je veux être à la tête d'un système. Je veux le leadership, au fond. Je veux être chef. Moi aussi, je veux être père. Et on sait qu'en Europe, d'ailleurs, avec le meurtre du père, dont a parlé énormément, d'ailleurs, Freud, le fameux complexe d'Œdipe par lequel, finalement, il faut tuer le père pour devenir père soi-même, on voit que ça a exacerbé les crises adolescentes en Europe. Moi, je suis convaincu que les crises adolescentes en Europe ont été exacerbées par le freudisme, mais aussi toutes les crises politiques aussi que nous avons. On a l'impression en France aujourd'hui que pour devenir président de la République, il faut tuer ses pères. Et ça a été particulièrement vrai, à mon avis, entre Chirac et Sarkozy avant, et puis là, entre François Hollande et Macron. C'est-à-dire qu'on a les successions se font par crise quand l'un tue l'autre, en fait. Et en fait, le jeu politique français, malheureusement, au niveau des présidentielles, c'est comment tu vas tuer ton père. Et tout le monde est à l'affût de savoir de quelle manière intelligente ou inintelligente on va tuer le père pour prendre la place du père, comprenez ? Et là, on a quelque chose qui se répète aussi ici. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Freud a été chercher ça dans la mythologie grecque, parce qu'il aurait pu trouver le meurtre du père ici, déjà, dans ce premier passage. Mais ce que je voudrais insister, c'est au-delà du meurtre du père, c'est la réponse du père. C'est, au fond, la non-réponse du père. Ou plutôt, si, une réponse, mais une réponse absolument non-violente. Parce que Dieu sait s'il y a une violence dans la première partie, mais dans la réponse du père, il y a une réponse absolument non-violente. C'est-à-dire que le père aurait pu refuser, aurait pu reprendre, aurait pu rejeter ce meurtre symbolique. Au contraire, il le chope en pleine tête, en plein cœur, ce meurtre symbolique. Et du coup, il partage son bion, sa vie. Autrement dit, donne-moi ta substance. Et la réponse du père, c'est une vie qui se donne, une vie partagée. Quel exemple extraordinaire. Ça nous rappelle l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Cette expression, je pense qu'elle veut dire aussi que le fait d'être immolé, ce n'est pas un accident dans la Trinité, c'est l'ADN de la Trinité. C'est que l'ADN de la Trinité, ce n'est pas de réclamer des sacrifices, encore une fois. L'ADN de la Trinité, c'est de se poser elle-même en sacrifice. Je voudrais aussi vous montrer cette image, je n'aime pas particulièrement, mais elle a un intérêt. C'est de se poser la question, on se dit, mais parce que vous savez, au Moyen-Âge, il y a eu un certain Anselme de Canterbury, et je suis sûr que tous, plus ou moins, on est tous un peu pollués par Anselme de Canterbury, de ce qu'il a dit. Anselme de Canterbury, d'ailleurs vous avez forcément entendu ça, vous lèverez la main si vous l'avez déjà entendu, a dit du style qu'au moment de la croix, le Père ne pouvait pas tourner le dos au Fils, parce que finalement, le Père ne pouvait pas regarder le Fils qui était devenu péché pour nous. Donc le Père, dans une sorte d'indignité, parce qu'il ne peut pas commercer avec le péché, aurait tourné son dos, et du coup le Père aurait tourné le dos, exactement comme l'aurait fait finalement un scribe ou un pharisien finalement. Par rapport à la souillure du peuple d'Israël. Vous comprenez ? Vous l'avez entendu ça ? Et nous, Français, est-ce que quelque part nous ne sommes pas pollués par cette image-là ? Mais vous voyez où ça peut conduire ça ? Ça conduit à une forme de violence représentative par rapport à Dieu. Du coup, Dieu, c'est celui qui envoie son fils au charbon et qui l'envoie périr pour nous, mais lui-même se tourne le dos à ce qu'il a provoqué lui-même. Ça, mes amis, cette image, elle est toxique. Anselme de Canterbury, je suis désolé mon gars, mais tu nous as donné une image d'une toxicité incroyable. Parce que quelque part, cette image de toxicité, elle nous amène à justifier toutes les violences familiales. C'est une représentation théologique qui est hyper dangereuse, je trouve. Parce que ça veut dire que quelque part, le père est celui qui envoie son fils au charbon et que lui tourne le dos à celui qui part au charbon sur la croix. L'intérêt d'une image comme celle-ci, c'est qu'elle montre le Père présent à la croix. Mais tout de suite, vous allez me dire, mais Pierre, à un moment donné, Jésus, est-ce qu'il ne crie pas « Heli, Heli, lama sabachthani » ? Exactement. Je pense que c'est « Heli, Heli, lama sabachthani », je vais vous dire ce que je crois de tout mon cœur. C'est que d'abord, il faut réaliser que ce cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'ailleurs, certains l'ont pris comme étant, vous voyez, l'échec de Jésus à la croix, en fait. Jésus s'est pris pour un Messie, il a cru qu'il était là au nom de Dieu. Regardez l'échec qu'il est en train d'essuyer, parce que sur la croix, en ce moment-là, il est en train de réaliser qu'il s'est planté en tant que Messie. Enfin, il y a eu cette interprétation-là. Élie, lama sabachthani. Mais en réalité, Élie, lama sabachthani, c'est un verset de l'Écriture. Déjà, il faut le réaliser, il faut le recapter, ça. Mais c'est le premier verset dans la version hébraïque du psaume 22. En réalité, dans vos versions, c'est le verset 2 du psaume 22. Élie, Élie, lama sabachthani. Autrement dit, ce que Jésus est en train de citer, c'est le psaume 22. Et pourquoi nous entendons qu'un seul verset ? Parce que pour une raison très simple, c'est qu'au moment où vous êtes sur la croix, si vous voulez me permettre d'exprimer ce que c'est que le supplice de la croix, que les Romains vont finir par abandonner parce que c'est trop cruel. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas un supplice romain, c'est un truc qui vient de la Perse, en fait, que les Romains avaient repris des Perses. Le clou est planté ici, là-dedans, dans cette masse osseuse que vous avez en dessous du poignet, jamais à cet endroit-là. Parce que si le clou était planté là, votre main s'ouvrirait, se déchirerait et le crucifié tomberait. Donc là, il y a une masse osseuse, etc. ici. Et donc le clou était mis dans la masse osseuse. Sauf que pour mettre le clou dans la masse osseuse ici, vous devez rompre le nerf médian. Ce fait même nerf que quand vous tapez votre coude. Donc ce nerf médian est sectionné. Du coup, les doigts se recroquevillent sur eux-mêmes. À cause de la section du... Donc, imaginez le corps qui pense sur un nerf qui est sectionné. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu un nerf sectionné ici ? Vous avez une petite idée de ce que ça peut ressembler ? D'un coup comme ça donné dans le coude ? Imaginez cette douleur qui continue. Vous avez le dos qui est complètement lacéré par les coups de fouet qui sont prolongés par des morceaux de plomb avec une partie qui lacère. Chaque fois qu'un coup de fouet donné, ça lacère. Donc le corps est complètement lacéré, etc. Donc le corps est suspendu par les os et sur un nerf médian qui est complètement sectionné. Ensuite, comme le corps pend sur lui-même, il comprime la cage thoracique. Autrement dit, la mort sur la croix, c'est une mort lente parsemée de moments d'apnée. C'est une apnée continuelle. Vous comprenez ? C'est une apnée continuelle de celui qui va devoir tirer sur deux membres qui le font horriblement souffrir, frotter son corps le long du poteau où justement il y a toutes les lacérations du corps, je sais pas si vous voyez, il doit tirer pour prendre une respiration. Donc de dire « Heli, Heli, lama sabachthani » en soi représente une performance physique. Heli, Heli, lama sabachthani. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'à cette époque-là, la mémorisation de l'écriture est telle que quand vous dites le premier verset à un fils d'Israël, tout d'un coup, tout le psaume se déroule en lui. De la même manière que je vais faire une expérience, je vais dire le premier verset du psaume suivant. L'Éternel est mon berger, et allez-y. Vous comprenez ce que je veux dire ? Imaginez que le crucifié ait dit « L'Éternel est mon berger !» et que tout d'un coup, il retombe sur lui-même parce que, justement, il a pris la seule respiration qui lui permettait de dire cette phrase et qu'il doit juste se reprendre. Vous croyez que le psaume s'arrête avec le verset « L'Éternel est mon berger », verset 1 ? Non, c'est-à-dire que dans l'esprit, comprenez, dans la mémoire va continuer à lire le verset 20, le chapitre, le psaume 22. Heli, Heli, lama sabachthani, ou l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tu me fais reposer dans de verts pâturages, et ta houlette et ton bâton me rassurent, etc. Et tout ce. Et je pense que s'il avait dit le premier verset du psaume 23, vous comprenez ce que je veux dire ? Tous ceux qui étaient là auraient récité le psaume 23 à l'intérieur. Or, ce jour-là, il a dit le psaume 22, verset 2 pour nous, et du coup, tout le psaume 22 s'est déroulé. Or, qu'est-ce que c'est que le psaume 22 ?
La nuit, je t'appelle encore et je ne trouve pas le repos. Pourtant, toi, le Dieu saint, tu es assis sur ton siège royal et tu reçois sans cesse les louanges d'Israël. Nos ancêtres ont mis leur confiance en toi. Ils ont mis leur confiance et tu les as délivrés. Vers toi, ils ont crié et tu les as libérés. En toi, ils ont mis leur confiance et ils ne l'ont pas regretté. Mais moi, je suis comme un ver de terre. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent et me méprisent. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font des grimaces. Ils secouent la tête en disant « Il a fait confiance au Seigneur. Eh bien, si le Seigneur l'aime, il n'a qu'à le délivrer et le sauver. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. On m'a confié à toi dès ma naissance. Depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne reste pas loin de moi. Le malheur est proche. Je n'ai personne pour m'aider. » Beaucoup d'ennemis m'entourent, ils sont autour de moi comme des taureaux, comme les puissants taureaux de Bashan. Ils sont comme des lions, ils ouvrent leur gueule contre moi pour rugir et déchirer. Ma force s'en va, comme l'eau qui coule, tous mes os se détachent. Mon cœur est comme la cire, il fond dans ma poitrine. Ma gorge est sèche, comme un morceau de terre cuite, et ma langue reste collée dans ma bouche. Tu me mets déjà au bord de la tombe. Un groupe de bandits m'entoure, ils sont autour de moi comme des chiens, ils m'ont percé les mains et les pieds. Je suis très maigre, on peut compter tous mes os. Mes ennemis me fixent attentivement. Entre eux, ils partagent mes habits. Ils tirent au sort pour savoir qui aura mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin de moi. Toi qui es ma force, vite, au secours, protège-moi d'une mort violente, arrache-moi aux griffes des chiens, sauve-moi de la gueule des lions et de la corne des buffles. Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. Vous qui respectez le Seigneur, chantez sa louange. Tous les fils de Jacob, rendez-lui gloire. Tous les fils d'Israël, tremblez devant lui. Le Seigneur n'a pas méprisé le malheureux dans son malheur. Il ne l'a pas rejeté. Il n'a pas détourné son visage de lui. Le malheureux a crié vers le Seigneur et le Seigneur l'a écouté. Grâce à toi, Seigneur, je peux chanter ta louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te respectent, je ferai ce que j'ai promis. Les pauvres mangeront, ils n'auront plus faim. Ceux qui cherchent le Seigneur chanteront sa louange, qu'ils vivent pour toujours. Toute la terre se souviendra du Seigneur et reviendra vers lui. Toutes les familles des peuples l'adoreront. Oui, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples. Ceux qui sont pleins de vie mangent et l'adorent. Tous ceux qui vont mourir, ceux qui ne peuvent rester en vie, se mettront à genoux devant lui. Leurs enfants le serviront. On parlera du Seigneur à la génération d'aujourd'hui, à ceux qui vont naître. On racontera ce qu'il a fait pour sauver son peuple.
À ceux qui vont naître. Regardez comme ce psaume est fait. C'est le psaume de la crucifixion. C'est le psaume le plus prophétique sur la crucifixion. Autrement dit, ce cri qui apparaît d'abord comme un cri d'abandon, et je vais y revenir quelques instants sur cet abandon, est en réalité la lecture, la proposition de lecture que le Christ nous fait, de comprendre ce qu'il est en train de vivre sur la croix à ce moment-là. Que ce cri d'abandon qu'on pourrait prendre comme le cri de l'échec est un psaume qui est là pour nous dire « Regardez ce que je suis en train de vivre, je suis en train d'accomplir la parole du Seigneur. Je suis en train d'accomplir le psaume 22 dans tous ses détails et même mes ennemis vont l'accomplir. Ils se partagent entre eux mon vêtement. Aucun de mes os ne sera brisé. » C'est dans ce psaume-là. Vous savez qu'il était de coutume que les Romains brisent les os des jambes, justement pour que le crucifié ne puisse plus se hisser sur lui-même pour reprendre la prochaine respiration. Donc il brisait les os des pieds, comme ça il n'y avait plus cette possibilité de faire l'apnée. Et du coup, il mourait très très vite d'asphyxie, plus vite en tout cas, ils accéléraient la mort. Mais quand ils sont venus pour briser les jambes du Christ, le Christ avait déjà donné sa vie. Il n'est pas décédé. Il a donné sa vie, comprenez? Et puis, il se moque de moi. Ah ben, s'il est vraiment... Attendons de voir si le Seigneur va venir le libérer, vous comprenez? Ces moqueries qu'il y a eu autour de Jésus à ce moment-là. Le fait que les Romains vont jouer au dé, la grande robe de Jésus qui ne la déchire pas. Le fait que Jésus a soif sur la croix. Ma langue se colle à mon palais, vous l'avez entendu. C'est le psaume par nature, prophétique, qui annonçait la crucifixion du Christ. Le Christ le cite pour nous faire comprendre ce qui se vit en ce moment-là. Mais quand vous regardez bien la structure du psaume, elle commence là, regardez ma main, à cet endroit-là, elle descend du psaume 2 au verset 22. D'ailleurs, dans ta traduction, le psaume 22, c'est « Tu m'as répondu ». C'est-à-dire « Heli, Heli, lama sabachthani, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le psaume 22, « Tu m'as répondu ». Et puis, à partir du psaume 22, vous avez une remontée. Une remontée. Et ça va culminer par ce verset, d'ailleurs, que d'autres traductions vont traduire par « Et une génération viendra, la génération à naître. » La nouvelle humanité, le nouvel peuple composé de fils d'Israël et de fils des nations, cette nouvelle humanité, cette nouvelle corps, cette nouvelle manière d'être humain qui est appelée le christianisme. Eh bien, on termine bien plus haut. On est parti là et on termine là. Là, il descend, je suis le méprisé du peuple. Il est l'homme qui va devoir expérimenter pour nous la séparation de l'amour, parce que comprenez que la séparation du Père, qui est la racine même de l'amour, on l'a défini avec C.S. Lewis ce matin, l'enfer, c'est l'absence de l'amour. Si Dieu est amour, être en dehors de l'amour, c'est vivre l'enfer. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous savez de quoi je parle, l'enfer, vous l'avez déjà vécu. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà vécu, cet enfer. C'est quand une relation amoureuse s'est brisée ou quand vous avez été trahi par l'amour. Vous savez ce que c'est déjà l'enfer. Parce que être séparé de l'amour, c'est en soi la définition même de l'enfer. Autrement dit, pourquoi Jésus a dû vivre cet enfer? Il a vécu l'enfer pour Israël, il a vécu l'enfer pour les goïms, afin que nous n'ayons pas à l'expérimenter. Il fallait qu'il le vive dans son humanité, parce que Jésus a été pleinement Dieu, pleinement homme, 100% l'humanité. Puis il est aussi pleinement Dieu. Autrement dit, l'effet que ça donne, c'est que le psaume 22, il y a une longue descente jusqu'au verset 22. C'est l'homme qui descend jusqu'en enfer. Puis tout d'un coup, il y a une remontée. Et là, Dieu qui a assumé l'humanité pour nous, nous fait remonter comme un peuple nouveau avec le statut de Dieu sur nous-mêmes. Et là, la fin du psaume 22 est bien plus grande que le départ. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cet abandon a été momentané. Il fallait qu'il vive à un moment donné cette séparation. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est où est le Père? Est-ce que selon Anselme de Canterbury, le Père a tourné le dos au Fils à ce moment-là? Où est-ce que le Père? Et là, je voudrais vous proposer la lecture d'un verset. Avant, je voudrais juste préciser une chose, c'est que quand dans la Bible, le mot « théos » est utilisé en grec, il fait référence à Dieu le Père. Quand « kurios » est utilisé en grec dans la Bible, il fait référence à Jésus-Christ. Ça paraît clair, hein? Kurios, Jésus. Théos, Dieu le Père. Ok? Ça marche comme ça? Maintenant, je vous invite à lire 2 Corinthiens 5, 19. Je vous invite à lire 2 Corinthiens 5, 19. Quelqu'un va le lire à voix haute? Pas tous en même temps, sinon ça va... Stop. Car Dieu était en Christ... Car Théos était en Christ. Il était où, Théos? Il était dans le Kurios, en Christ. Dieu était en Christ. Donc cette image d'Anselme de Canterbury, elle en prend un coup, là. Parce que le Père était en Christ. C'est-à-dire que, mes amis, sur la croix, il n'y avait pas seulement une personne de la Trinité. Il y avait le Père aussi, la deuxième personne de la Trinité. Du coup, et ça c'est très... On est du côté de l'orthodoxie, hein, l'Église orthodoxe, il y a cette révélation-là. Hein. On est du côté plutôt oriental, d'une vision de la croix qui est complètement différente de notre vision occidentale. Le regard oriental, on en a besoin, croyez-moi, sur les Écritures. Hein. Du coup, on se dit, mais où est le Saint-Esprit alors? Parce que si à la croix il y a le Fils et qu'il y a le Père, alors où est le Saint-Esprit? Eh bien, je vous propose de lire Hébreux 9, 14. Et pareil, j'attends que quelqu'un le dise à voix haute. Hébreux 9, 14. Voilà. Et le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite, ou d'autres versions, par la puissance de l'Esprit éternel. Là, on parle encore de la croix, vous comprenez? On parle encore du sacrifice. Autrement dit, si on lit 2 Corinthiens 5, 19 et qu'on le met en connexion avec Hébreux 9, 14, qu'est-ce qu'on a comme image qui est en train de se former? On a une image qui ressemble à ça. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas fan de ce tableau, mais je suis plutôt fan des autres qui vont venir après, vous allez voir. On a la présence de l'Esprit qui est là. Le Christ va s'offrir par la puissance de l'Esprit. D'ailleurs, il cite l'Écriture par la puissance de l'Écrit. Il accomplit l'Écriture par la puissance de l'Esprit. Et le Père n'est pas, comme l'a dit Anselme Canterbury, loin de la croix. Il est en Christ. En Christ, pas à côté du Christ. Il est en Christ. Donc, bien sûr, l'artiste a du mal à rendre compte de cette réalité. Mais on a une première représentation graphique là. Je vous en propose une autre qui m'a paru absolument incroyable. Regardez cette image. C'est une icône. Je ne suis pas très très fan des icônes en général. Le traitement là est pas mal, enfin je veux dire artistiquement, mais c'est surtout la thématique qui est impressionnante. Regardez comment le Père est représenté par rapport au Christ. Regardez les mains du Père qui sont crucifiées avec celles du Christ. Or le Père était en Christ. Or le Père était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Vous voyez, pourquoi je vous montre ces images? Parce que nous, occidentaux, elles bousculent un paradigme. Le Père était en Christ. C'est-à-dire qu'en fait, le Père n'est pas celui qui envoie le Fils au charbon, parce que dans ce cas-là, le Père est encore God ou Zeus, celui qui réclame le sacrifice. Le Père n'est pas celui qui réclame le sacrifice. Il est le sacrifice lui-même. Et puis, une image que j'aime tant, waouh, c'est celle-ci. Et là, je vous garantis qu'elle bouscule nos paradigmes. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a faite, je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps. Waouh, 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 waouh. Et en tout cas, pour moi, cette image-là, vous voyez, elle a une résonance avec Luc 15, verset 11. Le fils qui demande l'ousias du père et le père qui offre son bion, qui offre sa vie dans la non-violence. Vous savez, aujourd'hui, il y a des théologiens d'ailleurs qui ont repris les travaux d'un Français qui s'appelle, aide-moi Luc, tu sais, sur le bouc émissaire. C'est un anthropologue français d'ailleurs qui est décédé, qui a été enseignant à Princeton, René Girard. Merci Luc, Emmanuel. René Girard a proposé une autre lecture de la Bible. C'est un anthropologue. Hein. Il a dit qu'à cause du désir mimétique, je vais passer sur cette thématique du désir mimétique, en gros, à cause de la convoitise des hommes qui les amène à vivre la violence, la croix n'est pas tant l'expression de la violence de Dieu, du Père sur le Fils, la croix serait plus l'expression de la violence des hommes que la Trinité accepte de prendre en pleine poire. Autrement dit, tous les messages du Jésus qui dit « Quand quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche », prend tout son sens. Parce que cette parole du Christ qui demande à ce que la joue soit tendue par rapport à la violence, eh bien, c'est ce que la Trinité pratique. Vous comprenez ? Au lieu que la croix soit l'endroit où une violence divine est manifestée sur le Fils, du coup, la croix, selon René Girard, c'est plutôt l'endroit où toute la violence de l'humanité se donne rendez-vous. Et pas seulement la violence de l'humanité, parce que dans le psaume 22, on entend aussi toute la violence des taureaux de Bazan, les chiens, la révolte, toutes ces puissances démoniaques, parce que le chien, vous savez, le chien, pourquoi c'est un symbole de la révolte ? Parce qu'un chien, quand il aboie contre un être humain, il se met contre l'ordre de Dieu, comprenez ? Un chien, normalement, c'est un compagnon de l'homme. Et quand le compagnon de l'homme se met à aboyer contre l'homme, il se révolte contre l'ordre de Dieu. Il cesse d'être son compagnon. Il commence à exprimer de la haine, de la menace contre l'homme. Donc les chiens, ça représente la révolte, le changement de l'ordre de Dieu, la révolte vis-à-vis de ce que Dieu a fait. Donc les taureaux de Bazan, les chiens qui m'ont environné, dit le psaume 22, on peut voir dans la dimension de l'esprit toute cette haine qui est dirigée sur la croix, comme si à la croix ce jour-là, la Trinité avait donné rendez-vous à la haine du monde, pour prendre la haine du monde sur elle-même. Et annulé. Et selon René Girard, il dit le problème de la violence de l'humanité ne pourra jamais trouver qu'un seul endroit pour disparaître, à la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ n'est pas une option pour l'humanité, c'est le seul endroit où la violence qui est constitutive de notre méchanceté foncière peut trouver le lieu où enfin être reçu et annulé. Et à la croix, mes amis, votre violence, c'est là qu'elle prend fin. Notre violence, elle a pris fin. C'est pour cette raison que nous pouvons commencer à pardonner à partir de la croix, être pardonnés déjà à partir de la croix. Mais nous-mêmes aussi, nous pouvons commencer à devenir des vecteurs de pardon et aussi des vecteurs de non-violence. La non-violence de la Trinité. Je vous invite à méditer là-dessus. Donc il y a ce Père qui se sacrifie et nous comprenons que c'est la première image qui nous est donnée, que Jésus nous donne du Père, le Père qui se sacrifie. On va voir que le Christ va se sacrifier aussi parce que plus tard dans la parabole, nous verrons qu'il offre un le veau gras. Mais je voudrais juste que vous réalisiez que le Père ne peut pas offrir le veau gras tant que lui-même, le Père, ne s'est pas offert lui-même. Est-ce que vous voyez ça ? Vous voyez, à cause d'Anselme de Canterbury, jusqu'à présent, je ne voyais que le veau gras. Je disais toujours, le veau gras, ben c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, Jésus. Sauf que je n'avais pas compris que ce veau gras n'a de sens et le don du veau gras n'a de sens parce que le Père a déjà donné sa vie dès le début de la parabole. Et le Père nous voit de loin, il voit nos lointains, il voit cet éloignement dans lequel nous sommes. Cet éloignement. J'aime cette image, ça s'appelle Eye of God. Hein. C'est une nébuleuse qui a été prise en photo par la NASA. Je ne sais pas si Dieu a les yeux bleus, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce regard. Le fait que le Père voit toutes choses, hein, le Père voit de loin, il voit nous lointains. Et cet éloignement par lequel nous vivons par rapport à nous-mêmes, par rapport à lui d'ailleurs, le remplit de compassion. Souvenez-vous, ce mot compassion, splancat zomai, qui parle des entrailles de miséricorde du Christ. Vous savez, quand le Christ regardait les fous, il était ému de compassion, comme des brebis sans berger. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que ces lointains émeuvent le Père jusque dans la compassion. Et on voit en Christ Jésus ces entrailles de compassion devant les foules. Devant leur faim aussi. Et d'ailleurs, pour nous, charismatiques, on doit se souvenir d'une chose, c'est que c'est la compassion de Jésus pour Bartimée qui a amené Bartimée à revoir, à voir à nouveau. Autrement dit, mes amis, et nous, charismatiques, on doit le confesser, c'est que la source de la puissance n'est pas la puissance. La source de la puissance, c'est la compassion. Et si vous voulez voir plus de puissance dans votre vie, demandez plus de compassion. Recevons la compassion. Recevons la blessure de la compassion. Je me souviens, tu te souviens, Luc, hein, de cette prière triple qu'on entendait quand on était jeune chrétien. Seigneur, qu'il y ait dans la vie de ton serviteur 3 blessures et qu'elles ne se referment jamais. Vous vous rappelez de cette prière? La blessure de la compassion, tout avec amour. La blessure de la contrition, tout pour ta gloire. Je ne me souviens plus de la troisième. Tu te souviens plus de ça? C'est l'âge, Luc, hein, ça. C'est l'âge. Seigneur, tu bénis mon frère Luc, Seigneur. Tu restaures la puissance de l'honneur de son pauvre petit frère. Cette blessure de la compassion qui est dans la Trinité, cette réalité de la compassion, va amener le Père à courir à lui, cette course du Père, cette image dynamique. Parce que vous savez, ce qui me touche dans cette course, c'est que dans la course, il y a quelque chose de dynamique qui n'est rien en phase avec une image idolâtrique. Les idoles, par nature, les fausses idées, vous immobilisent. La nature d'une idole, bibliquement parlant, c'est l'immobilité. Il n'y a rien de dynamique dans l'idolâtrie. C'est pour cette raison que combattre l'idolâtrie, c'est combattre quelque part tout ce qui peut se mettre entre nous et Dieu qui va nous rendre immobiles finalement, qui va nous stopper dans notre marche. Moi, je trouve dans cette parabole quelque chose de tellement dynamique, d'un père qui se met à courir. Mais ce qui est intéressant dans cette course, il faut comprendre la raison de cette course. C'est que vous avez dans la Torah, dont on est dans Deutéronome 21, versets 15 à 21, cette idée que, d'ailleurs, qui va parler d'un fils aîné, d'ailleurs, le fils premier-né qui reçoit le droit d'aînesse. Et puis après, le même passage au verset continue par au verset 18 d'ailleurs, par un fils indocile et rebelle. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage de Deutéronome 21, du verset 15 à 21, vous avez déjà la structure du psaume 15, de cette parabole de la fin de Luc 15. C'est-à-dire que vous avez un aîné avec son droit d'aînesse et vous avez un fils rebelle et indocile. Et n'écoute pas la voix, etc. Voilà ce qui devra se passer, c'est que tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Autrement dit, selon la loi mosaïque de la Torah, un tel fils, tel qu'il nous est présenté, qui humilie le père, dans sa propre famille, puis socialement, parce que le cadet a dû vendre tous les biens du père que le père lui a donné, des champs, des fermes, des troupeaux. Il a dû le vendre à la perte d'ailleurs, et il a dû ainsi humilier son père socialement au-delà de sa propre famille. Il a vite ramassé l'argent et il s'est barré, quoi. Et ça, cette attitude a choqué profondément Israël à ce moment-là, parce que du temps d'Israël, il y avait deux manières d'hériter. C'est-à-dire que soit le père avait fait le partage et vous attendiez la mort du père pour recevoir le partage, soit le père n'avait pas fait le partage, mais il fallait de toute façon attendre la mort du père pour recevoir le partage. Or là, le cadet de cette parabole va innover par rapport aux lois successorales d'Israël en réclamant l'héritage du vivant du père. Et ça, c'est vraiment une iniquité qui est faite, c'est un péché à bras étendus, à bras levés, qui est faite contre la loi de la Torah. Et regardez ce que, concernant un fils indocile et rebelle, voilà ce qu'il attendait, c'est que les hommes de la ville le lapideron en dehors de la ville, etc. Autrement dit, la course du Père, c'est le moyen que le Père a d'arriver avant le jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Vous voyez, là où la loi condamne, le Père se met à courir pour arriver avant la sentence de la loi. Le Père court une course de vie qui va arriver avant que la mort ne s'exprime par la lapidation au nom de la loi. Encore une image extraordinaire de la miséricorde qui triomphe du jugement. En plus, l'image qui est utilisée ici est carrément tirée de Genèse 33, verset 4. D'ailleurs, vous avez exactement la même succession. Le Père voit de loin, donc il se met à courir à sa rencontre. On va voir qu'il va l'embrasser, il se jette à son cou et va le couvrir de baisers. Exactement la même succession des quatre actions que vous voyez là. Courir, embrasser, jeter et embrasser. Hein, couvrir de baisers. Vous avez les quatre verbes sont repris exactement. Autrement dit, quel est le message? Et ça, c'est extraordinaire. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, mais ça, c'est carrément génial. Regardez ce qui se passe. Vous avez ici, d'ailleurs, on se souvient très peu de cette scène, mais elle est incroyable. Ça, c'est Ésaü, on est d'accord, qui court. Et là, on a qui? Jacob. Où est le bien-aimé d'Israël, ici? Où est le bien-aimé? C'est Jacob. Quel est l'homme haï? C'est Ésaü. Or, regardez, le Père, il agit comme qui? Comme celui qui est haï. Faites comme ça avec votre main gauche. Parce qu'avec la main droite, vous tenez le micro, vous comprenez? Waouh. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que le Père, ici, volontairement, prend le rôle de l'anti-héros biblique par excellence. Parce que, vous savez, dans la Bible, il y a des héros. Puis il y a des zéros aussi. Vous comprenez? S'il y a des héros, Jacob en fait partie. S'il y a des zéros, Ésaü en fait partie. J'ai aimé Jacob, j'ai haï. Ésaü. Ésaü, c'est la figure même de l'homme haï. Et regardez, le Père assume celui qui est haï pour montrer que ça, c'est une image paternelle d'un grand frère qui court vers son petit frère. Regardez cette image. Regardez l'exemplarité ici. Le Ésaü va faire exactement l'acte du Père. Et le Père, autrement dit, va agir exactement de la manière de celui qui est haï. Waouh, quelle image. Vous comprenez quand Eli Eli lama sabachthani, celui qui prend la place de l'humanité, le Père qui prend la place de l'homme haï, c'est le même principe. Quelle puissance. Quelle puissance. C'est juste pour vous dire qu'il me semble qu'il y a des dieux dans le monde qui feraient bien de courir un petit peu. Donc, c'est pas... Hein, David, it's not the running God, it's the rolling God. Hein? Yes. It's not a message for you, David. Hein? It was completely, you know, out of intention. Yeah. Et donc, le père va se jeter, il prend un élan. Vous voyez, et on va reprendre toute la section qui va venir, c'est Jacob, c'est Ésaü. Le Père se jette à son cou, exactement comme Jacob. Et donc, vous comprenez, là, les scribes et les pharisiens qui étaient versés dans les Écritures, je vous rappelle que les scribes étaient des enseignants de l'Écriture, ils ont bien reconnu ce passage. Ça ne leur a pas échappé que le Père agit comme Ésaü. C'est vraiment, on est à contresens des images d'Épinal, on est contresens complet pour nous amener à un renouvellement. Il va se jeter à son cou. J'aime cette image aussi, hein. Très très belle image. Hein, j'ai un ami qui est allemand comme ça. Il me traduisait un jour en Allemagne et je montrais cette image. Il me traduisait en allemand et je disais, regardez la taille des pattes, etc. On dirait c'est la même taille que les cuisses du gars et peut-être même un peu gros. Et puis il m'a dit, tu vois Pierre, il ferme les yeux. Je dis, ah oui, c'est beau. Et je dis, je crois qu'il prie. Ah bon? Il dit, oui, merci Seigneur pour ce bon repas. J'aime bien cet humour-là. Alléluia. Cette image de l'embrassade. Du même coup, vous savez, cette embrassade, c'est le signe que... Vous savez, si alors nous, on a rigolé avec cette image. Un oriental aurait été là, il aurait dit, ah, tiens, le père a pleuré. Et nous, occidentaux, nous ne voyons pas les pleurs du père. Mais pourquoi tu dis qu'il a pleuré? Comment tu le vois? Parce qu'il se jette à son cou. Oui, et pourquoi tu se jeter à son cou, c'est pleurer? Parce que c'est clair que le père s'est jeté à son cou pour cacher ses pleurs, parce que dans le monde oriental, quand on prend quelqu'un dans son cou, et c'est ce qui s'est passé avec Ésaü, Ésaü a caché ses larmes dans le cou de son frère. Ouh. Donc le père a pleuré pour eux. Pour un oriental, c'est juste évident. Mais nous, occidentaux, on a du mal à le voir, comprenez? Parce qu'on a une lecture occidentalisée de ce psaume, de cette parabole. On a besoin aussi de ce regard oriental, qui est tellement intéressant. Et ensuite, le père va couvrir de baisers. Et quand je vous dis que le père a un cœur de mère, à mon avis, c'est peut-être là qu'on le voit le plus, et je voudrais vous rappeler une chose. C'est que le cadet... bien sûr, de toute évidence, il puait le cochon, quoi. Ça devait être grave, quoi. On connaît, ma femme et moi, on a une copine d'enfance. Elle s'est mariée avec un gars qui a une entreprise d'élevage de cochons. Elle disait qu'elle-même, quand elle a aidé son mari, quand elle rentrait, il lui fallait une demi-heure sur la douche pour enlever cette odeur. Tellement c'est une odeur prégnante. Donc imaginez le cadet qui rentre de son long chemin, qui pue le cochon, mais c'est affreux, quoi. Il pue le cochon, il pue le voyage, et puis il pue même la religiosité. Donc en fait, on peut puer de plein de manières, en fait. Non, c'est génial, on a fait un séminaire où Pierre nous expliquait comment on pouvait puer, c'est quelle révélation. On peut puer finalement physiquement, on peut puer à cause du péché. On sait que le cadet a vécu une vie dans le péché. Il puait le péché, il puait physiquement, il puait le cochon. Il puait finalement aussi la religiosité. Et finalement, le seul remède à tout ça, parce qu'il n'y en a qu'un seul, c'est le Père qui nous couvre de baisers. Il n'y a pas un plan A et un plan B. La seule solution à notre puanteur, la seule solution à notre saleté, c'est les baisers du Père, que le Père dépose sur nos vies et par lesquels il va nous laver. Et vous allez voir que cette idée d'être lavé est tout à fait réelle dans quelques instants. Parce que le mot ici, alors imaginez, voilà le cadet. Hein, encore ce cadet-là, vous avez envie de lui faire des bisous. Hein, ça va encore. Bon, sauf que si vous aviez l'odeur en plus... On serait peut-être moins nombreux à vouloir lui faire des bisous à celui-là. Moi, ça me rappelle au Maroc, comme ça, il y avait vraiment un endroit qui était particulièrement sale. Il y avait des enfants qui jouaient dans cet endroit particulièrement sale, etc. Tout d'un coup, il y en a un qui tombe, qui se met à pleurer comme ça. Et il avait les larmes qui commencent à nettoyer ses joues, la crasse comme ça. Il avait deux chandelles qui pendaient comme ça. Il pleurait. Et sa maman est venue, l'a pris dans ses bras et l'a couvert de baisers. Il y avait des fils entre eux, tu sais. C'est ce qu'on dit, tu sais, un bisou avec des fils. Tu vois, et ça, je me dis, waouh. Il n'y a qu'une mère qui peut faire ça. Vous savez, j'imagine que les pères, ils vont dire, écoute, fils, je suis content que tu sois venu à la maison. Mais s'il te plaît, tu vas prendre une douche et papa va te faire un petit câlin après, tu vois. Ça, c'est les pères. On reconnaît bien notre courage, là, les gars. Hein, mais une mère, elle va pas penser au savon tout de suite. Elle va penser à l'accueil. Et c'est en cela qu'il y a quelque chose de maternel. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, d'ailleurs, qui va sûrement choquer, parce que c'est moi que je l'ai entendu, et on est dans le réel, là. Hein. C'est une femme qui est directrice d'un bloc à la maternité. Elle m'a dit, elle a voulu prendre la parole à un moment donné, alors que j'étais en train de parler de ça, et ça a été bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Elle me dit, en tant qu'homme, en tout cas, elle me dit, tu sais Pierre, c'est pas rare que dans une maternité, quand une mère donne naissance à son enfant, alors attachez votre ceinture, il y a des mères qui nous demandent est-ce qu'on peut lécher l'enfant. Et je vais vous dire, en général, la léga, c'est là où les gars... ils sont déjà tombés dans les pommes déjà avant, de toute façon. On est en train de les claquer pour les réveiller, de toute façon. Donc, de toute façon, ils n'assistent pas à ce genre de scène. Et alors que le père est dans les pommes, comme ça, tu as des mères qui demandent, est-ce que je peux lécher mon enfant? Est-ce qu'il y a des mères ici qui peuvent le comprendre? Parce que les jeunes filles que vous n'avez pas donné naissance encore, je ne pense pas que vous puissiez le comprendre. Mais est-ce qu'il y a des mères qui peuvent éventuellement le comprendre? Alors, vous élevez la main, allez-y, quoi. Allez, allez. Voilà, regardez autour de vous, il y a quelques mères qui peuvent comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'elles le feront forcément. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous voyez cette ocytocine en question, cet attachement, cette réalité de la maternité. Vous, les mères, vous êtes mères depuis 9 mois déjà. Nous, les pères, on apprend à la paternité, comprenez? Mais vous, vous êtes mères depuis 9 mois déjà, et nous, on tombe dans les pommes. La seule chose qu'on peut faire, c'est tomber dans les pommes. Et vous, les mères, vous êtes prêts à lécher l'enfant, enfin, à l'accueillir comme ça, sur vous, et waouh, waouh, waouh. Et c'est en cela, vous comprenez, dans cet acte-là, quelque chose de maternel. Aucun père ne ferait ça. Je ne vois pas un père lécher un enfant qui vient de naître. Ben oui, c'est ça. Déjà gluant, déjà. Oui, on les trouve beaux, tout gluants. Ben voilà, c'est ça. Oui, Manu, si vous voulez avoir une idée de qui est Dieu comme mère, interviewez Manu, elle vous dira qui est Dieu comme mère. Ça, c'est clair. Sous le contrôle de notre ami Kate Philessène. On va faire un petit peu de grec. Philessène, Katéléphène est composé de 2 mots. Hein. On peut dire un préfixe, ça va, Katé? C'est un préfixe, comment on dit ça en hébreu aussi, ouais. Un préfixe et puis vous avez un verbe. Philessène, c'est... Alors, on va faire du grec ensemble. Philessène, c'est... Encore un petit peu de grec. Philessène? Non, attendez, ensemble. Philessène, à vous. Voilà, c'est ça, c'est bien. Donc, philessène, c'est okay, c'est faire un baiser. Quand on met caté devant, ça veut dire quoi, caté, si on met caté devant? C'est encore, et encore, et encore. Ce qui fait que la meilleure traduction que vous pouvez trouver, c'est embrasser avec ferveur, ou, comme une version le dit très très bien, c'est couvrir de baisers. Ça suppose... Donc, on va faire du grec. D'accord? On va voir si vous avez bien retenu cette leçon de grec. Philessène. Philessène. Katé Philessène. Voilà. Ouais, c'est comme avoir un fusil à un coup et avoir une mitrailleuse. Vous avez compris la différence? Donc Katé Philessène. 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 Katé Philessène. Voilà, excellent. Je pense que le grec serait plus facile si on l'apprenait comme ça. Et du coup, ce mot catéphilésène, parce que l'intérêt, bien sûr, c'est de voir à quels autres endroits le mot catéphilésène est utilisé. Il est utilisé ici. Or, de quoi il s'agit ici? De laver les pieds de Jésus. Donc ce catéphilésène, ce fait de couvrir de baisers, qui est utilisé exactement dans ce passage où finalement Jésus prend l'action de cette femme qui est en train de baiser ses pieds, en train de dire à cet homme qu'il avait invité, qui finalement le méprisait un petit peu, il dit, tu sais, depuis que je suis entré, tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais cette femme, depuis qu'elle est rentrée, je sais très bien ses origines, mais elle me lave les pieds. Elle ne cesse d'embrasser mes pieds. Catéphilésène, vous comprenez, C'est cette idée du catéphilésène, du Père qui nous couvre de baisers. Un autre passage où catéphilésène est utilisé. Oups. Judas. Waouh. Moi, je pensais que c'était le mot philésène. Et à ma grande surprise, ce n'est pas le mot philésène qui est utilisé. C'est catéphilésène. C'est-à-dire que Judas a trahi Jésus avec l'expression même d'un signe d'amour et d'amour fervent. Ce qui rend la trahison de Judas particulièrement, je trouve, tragique, si on pense au sens réel de ce verbe-là. Et puis quand vous couvrez quelqu'un de vos baisers, vous déposez sur quelqu'un votre ADN. Hein? Il faut avoir vu les experts pour ça. Hein? votre ADN est déposé comme ça sur le cadet. C'est-à-dire que le Père, en lavant littéralement son cadet avec ses baisers, il identifie son fils. Et c'est ça l'adoption. C'est que ce n'est pas le fils qui peut mériter quelque part cette adoption, c'est le Père en embrassant. Pour ça, il va refuser ce mot « je ne suis pas digne d'être appelé son fils » parce qu'il s'apprête à dire ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'il va le dire. Quand je vous dis que nous mettons en place des stratégies d'évitement, si vous regardez bien dans le contexte, au moment où le Père est en train de couvrir le fils de baiser, le fils va dire « je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ». Et il dit, ce n'est pas qu'il s'apprête, il le dit en fait, il va l'exprimer clairement. « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ». Et il va refuser ce geste de cataphilésène, de ce lavage de l'amour du Père sur sa propre vie. Et il s'apprête à dire « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Mais attends, franchement, vous croyez que le Père agit comme un patron ici ? Il y a combien de patrons en Alsace qui, le lundi matin, voient leurs ouvriers comme ça de loin ? Et quand ils voient leurs ouvriers arriver, ils sont émus de compassion. Alors, à ce moment-là, ils se mettent à courir comme ça, vers leurs ouvriers comme ça. Et ils les prennent, ils les soulèvent comme ça dans leurs bras. Et ils disent, tu m'as tellement manqué ce week-end. Et puis, ils leur mettent après sur leur dos un nouveau bleu de travail, des nouvelles chaussures de sécurité, vous voyez. Combien il y a de patrons alsaciens qui font ça ? Vous voyez, c'est ça qui est risible, et je suis content que vous ayez ri, non pas parce que c'est ma blague, mais c'est parce qu'il y a tellement quelque chose de risible dans notre religiosité, dans le sens où quelque part le Père nous reçoit comme vraiment un Père seul pourrait le faire, et je l'ai même dit comme une mère sœur pourrait le faire, et il y a toujours ce refus intérieur, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et ça c'est la phase suivante, je vous rappelle, si on compare les deux, hein. Ça c'était avant le retour, après le retour. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'attraper ton fils. Et aujourd'hui on a une version française qui a mis des points de suspension. Et regardez le psaume 22, mais il y a le fameux mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et qu'est-ce que c'est que cette plus belle robe? Je pense qu'à Guevillers, vous en avez entendu parler par Luc, forcément, cette plus belle robe. Qu'est-ce que c'est que cette plus belle robe ? C'est la robe de la justice. C'est la plus belle parce que c'est la seule robe de la justice. Et je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Enfin, en tout cas, c'est Ésaïe 61:10. Regardez. « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être essayera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'habille avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. » Autrement dit, c'est une parure qui nous donne le statut même du Seigneur, le statut spirituel du Seigneur. Nous sommes justes, nous sommes parfaits, nous sommes obéissants. Nous sommes justes, parfaits, obéissants, nous sommes saints. Voilà, justes, parfaits, obéissants et saints. C'est quatre choses, répétez après moi. Juste, parfait, obéissant et saint. Vous comprenez que en Christ, si nous sommes justes, parfaits, obéissants et saints, cette justice, cette obéissance, cette perfection et cette sainteté, elle n'est pas devant vous quelque part, au sens où ne placez jamais ces quatre qualités devant vous, mais placez-les derrière vous. Je voudrais vous montrer à quoi ça ressemble. Tu veux revenir vers moi ? Si vous placez la sainteté et la justice et l'obéissance et la perfection devant vous, et que vous essayez de la poursuivre, et vous la mettez que devant vous, voilà ce que ça va donner. Vas-y, tu viens, tu essayes de me rejoindre. Vous comprenez ? Ça va faire ça. Vous allez vous sentir empêché de... Par contre, regardez, si vous placez la justice, la sainteté, l'obéissance et la perfection du Christ, si vous la confessez comme déjà à vous, voilà ce qu'elle va faire dans votre vie. Voilà. Voilà, vous pouvez vous reposer sur cette chose. Et alors que vous marchez comme ça, vous allez mettre au monde cette sainteté, cette justice, cette obéissance, cette perfection. Comprenez ? Donc la justice, la perfection, la sainteté, l'obéissance n'est pas devant vous, elle est déjà en vous. Elle est déjà votre vêtement en Christ Jésus. Et elle vous pousse dans la vie à mettre cette chose au monde. Mais ce n'est pas parce que vous mettez cette chose au monde que vous allez devenir saint, parfait, obéissant. Vous êtes déjà et vous n'êtes pas encore. Merci bien. Merci beaucoup. Pensez, représentez-vous par exemple une femme enceinte. Fermez les yeux quelques instants et représentez-vous une femme dans son 9e mois. Vous la voyez cette femme dans son 9e mois ? Vous la voyez bien ? Ok ? Maintenant j'ai une question, est-ce qu'elle est mère ? Réponse. Est-ce qu'elle est mère cette femme ? Alors toutes les femmes vont dire, mais bien sûr Pierre. Et les gars vont dire, Alors j'ai une bonne nouvelle pour les femmes, vous avez raison. J'ai une bonne nouvelle aussi pour les hommes, d'ailleurs, vous avez raison aussi. Hein ? Elle est déjà mère, mais elle n'est pas encore. Eh bien, vous savez, cette idée de justice, de sainteté, de perfection et d'obéissance, c'est exactement l'image qui nous est offerte. Et c'est une image que je reprends d'un théologien qui s'appelle N.T. Wright. Dans un de ses livres, il parle de cette réalité du royaume de Dieu. Ces quatre réalités sont déjà notre réalité. Elles sont déjà. Et alors que nous confessons ce déjà, alors nous pouvons mettre en œuvre le pas encore. Nous pouvons mettre ce qui va venir de cela. Mais il faut déjà le confesser. Autrement dit, l'acte le plus humble qu'on puisse faire, en fait, et pas un acte d'arrogance, c'est de dire en Christ Jésus, je suis saint. En Christ Jésus, je suis parfait. En Christ Jésus, je suis obéissant. En Christ Jésus, j'ai oublié quelque chose, je suis juste. Juste. Allez, dites-le à votre voisin, ça. En Christ Jésus, je suis déjà parfait, saint, obéissant, juste. Pour la pause, en tout ? Ah oui, mince. Waouh. Oui. Point suivant. Le Père va lui remettre un anneau. Le Père va lui remettre un anneau. Cet anneau, j'aimerais que vous compreniez quelle est la nature de cet anneau. Cet anneau, c'est pas un anneau de mariage comme celui-là, par exemple. C'est pas ça. D'ailleurs, on dit toujours, nous, de manière très occidentale, c'est l'anneau de l'alliance. Oui et non, dans le sens où c'est plutôt un anneau sigillaire. Est-ce que vous comprenez l'expression « un anneau sigillaire » ? C'est-à-dire, c'est un anneau qui est surmonté, regardez, d'un sceau. C'est-à-dire que là, en négatif, vous avez le sceau de ce que vous avez ici en positif. Autrement dit, à une certaine époque qui n'est pas si reculée en arrière, lorsque quelqu'un signait avec un anneau sigillaire, il a posé un sceau royal sur un document qui donnait au document la même autorité que celui qu'il aurait écrit de sa propre main. Ça correspondrait aujourd'hui, par exemple, à une signature électronique que quelqu'un aurait donnée à quelqu'un pour signer en son nom, par exemple. Ou vous savez, ces fameux tampons-là, où il y a la signature de quelqu'un, et finalement, c'est ça un sceau, quoi. Autrement dit, quel est le message qui nous est donné là, que le Père donne un anneau sigillaire ? C'est le même message que l'on retrouve quand le Pharaon va remettre l'anneau de son doigt à Joseph. Et lui donne des habits en fin lin, d'ailleurs, qui est le symbole même de la justice aussi. Et lui met un collier d'or au cou et le fit monter sur le char, suivant le sien, où l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Autrement dit, cet anneau, ce n'est pas l'anneau qui veut dire, premièrement, je me lie à toi et je te séquestre à moi. Ce n'est pas ça l'idée, c'est l'idée d'un partage d'autorité. Et d'ailleurs, c'est ce que devrait être tout mariage. Le symbole de l'anneau, ça devrait être un anneau sigillaire où nous donnons autorité à l'autre. On partage l'autorité. Le mariage, ce n'est pas se lier l'un à l'autre, c'est plus que ça. C'est partager l'autorité l'un avec l'autre. C'est l'idée du partage de l'anneau sigillaire. Et regardez, le cadet devient, si Joseph est devenu le commandant de toute l'Égypte, c'est-à-dire le premier ministre de toute l'Égypte, ça veut dire que le père, en donnant l'anneau sigillaire à son cadet, fait de lui le premier ministre de sa maison. Et vous savez, à ce stade-là, j'ai envie de dire, attends, si l'aîné va péter un câble à cause du veau gras, j'ai envie de dire, mais attends l'aîné de voir l'anneau sigillaire au doigt de ton frère, parce que là, si tu pètes un câble avec le veau gras,
Je ne sais pas ce qui va t'arriver quand tu vas voir l'anneau sigillaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez les scribes et les pharisiens qui ont dû être choqués par cette idée qu'un anneau sigillaire soit donné à cet ingrat. Le partage de l'autorité. Autrement dit, quelle est l'image que le Père veut nous donner ici? C'est que le Père ne veut pas juste régner sur vous, les amis. Il veut régner avec vous, au travers de vous. Le Seigneur a plus que simplement régné sur vous, comme un roi régnerait sur des sujets. Il veut régner sur nous, certes, mais il veut régner aussi au travers de nous. Nous avons bientôt fini, le Père lui donne de nouvelles sandales. Les nouvelles sandales sont le symbole d'une nouvelle liberté qui est donnée, parce qu'à l'époque de Jésus, quand il y avait des esclaves, on enlevait les sandales de l'esclave, parce que comme ça, il ne pouvait pas fuir loin du maître. Et avant la fin de la journée, le maître aurait eu très tôt le temps de remettre la main sur le fugitif. Donc, redonner les sandales, vous rendez compte ce que ça veut dire? À celui qui vient juste de rentrer, c'est une manière de lui dire, si tu veux, tu peux repartir. Et ça, mes amis, cette liberté, elle nous parle encore de l'amour. Parce que le fondement de l'amour n'est pas l'amour. Le fondement de l'amour, c'est la liberté. Il ne peut pas y avoir d'amour sans une liberté restaurée. C'est pour cette raison que le Christ va nous donner la vraie liberté. Pourquoi ce thème de la liberté en Christ Jésus? Parce que notre liberté, et c'est aussi Calvin qui le dit, moi je le trouve tellement vrai, il dit, vous savez, Calvin ne croit pas trop au libre-arbitre en fait, du non-chrétien, que le non-chrétien ferait un choix libre, etc., de Dieu, etc. Il croit plutôt le fait que, et je le rejoindrai assez dans cette idée, que la liberté humaine, au fond, est un rêve perdu, un rêve brisé. Vous savez, un peu comme tous ces gens qui disent « Ah, mais moi, je suis libre, de toute façon. » Puis le gars, il fume des cigarettes, quoi. « Ah, mais je suis libre. Oh, de toute façon, j'arrête demain, si je veux. » Ok, let's go for it. Essaye donc. Essaye donc d'arrêter juste demain, si tu veux. « Ouais, mais j'ai pas trop envie. » Vous voyez? Et en fond, ce que dit l'Écriture par rapport à la liberté, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Autrement dit, nous pouvons juger notre liberté qu'à l'aune de savoir si nous sommes libres de tout esclavage. Et on comprend bien que déjà, si je m'adresse à des chrétiens, imaginez à des non-chrétiens, le nombre de choses dont on peut devenir esclave, c'est juste incroyable, quoi. On peut devenir, alors j'ai parlé de la cigarette, on peut parler du café, on peut parler du sucre blanc d'ailleurs. On peut parler d'Internet, on peut parler des tablettes, on peut parler du sexe, on peut parler de la pornographie, on peut parler de quoi encore ? D'un nombre infini de choses derrière lequel la puissance du péché nous rend esclaves. Et vous rendez compte, l'image qui est faite de l'être humain dans l'Écriture, en fait, c'est nous dire, voilà, vous êtes des prisonniers qui rêvez de liberté, en gros. Et vous proclamez votre liberté, mais en réalité, vous êtes esclaves de plein d'autres choses. C'est Romain qui va nous montrer cette réalité. Or, le Christ, il dit, celui que le Christ a franchi, est réellement libre. Mais ce réellement libre, il a une fonction médiatrice vers quelque chose. Cette liberté, elle nous rend capables d'aimer. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. Rappelez-vous ce que Jésus fait. Il va choquer ses disciples dans un message très dur. Le message vampire et cannibale de Jésus, vous le connaissez tous. Hein ? Je vous le dis en vérité. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang. Vous dites ça à des fils d'Israël, à qui on a enseigné que la vie est dans le sang, comprenez? Attends, mais ce gars-là, il veut qu'on le bouffe, il ne va pas bien, non? Il veut qu'on mange son sang, mais il est bien, lui. Vous voyez, Jésus va choquer. Et pourquoi il va choquer? Il va provoquer une pierre d'achoppement en Israël. Je place une pierre d'achoppement en Sion. Pourquoi il place cette pierre d'achoppement? Parce que cette pierre d'achoppement, c'est une manière que Jésus a régulièrement de nous redonner la liberté de le suivre. De refaire le choix.
Parce que c'est dans une décision libre que nous décidons de devenir disciples. Et il est dit dans ce même passage qu'après ce message un peu bizarre de Jésus, cannibale et vampire, plusieurs de ses disciples décidèrent de le quitter, de le lâcher. Et plusieurs le lâchèrent et le quittèrent. Hein, comme Vito est en train de nous faire en ce moment-là. Et quand il quitte le Seigneur à ce moment-là, Jésus entend le bruit de pas. Vous savez, c'est la clé. Il entend le bruit de pas. J'aime beaucoup ce petit détail, juste ce petit détail. Il entend le bruit de pas. Il entend le bruit de chaussures derrière lui. Il se retourne et il voit ses disciples. Il dit, alors, vous ne partez pas? Et les disciples ont répondu, ça c'est ma traduction, écoute Jésus, franchement, tu as des prédications un peu bizarres. Mais même quand tu dis des choses bizarres, je ne sais pas pourquoi ça donne la vie. Alors on te suit. Vous voyez, ils ont fait le choix de le suivre librement, et ce choix de le suivre librement va réensemencer, va replacer l'amour sur un fondement de liberté encore plus solide. On ne suit pas le Christ à cause de ses miracles, on ne suit pas le Christ parce qu'il donne à manger, on suit le Christ par liberté, par amour. Et je voudrais juste vous rappeler que dans la Nouvelle Jérusalem, une des caractéristiques de la Nouvelle Jérusalem, c'est que les portes restent ouvertes. Jour et nuit. Le royaume de Dieu n'est pas une prison. Le royaume de Dieu n'est pas une secte. Le royaume de Dieu, c'est un lieu où on entre, on trouve à manger, on sort la redonnée, on entre et on sort. C'est ça la réalité du royaume de Dieu. Et je voudrais vous montrer aussi quelque chose que j'aurais aimé savoir lorsque j'étais jeune. Et je me réjouis pour ceux qui sont jeunes au milieu de nous, parce que c'est là je vais vous donner le conseil qui va vous permettre de vivre un amour qui dure toujours. Pourquoi l'amour, dit-on, ne dure que 3 ans aujourd'hui? Il y a un bouquin qui est sorti là, sur ce thème-là. C'est parce qu'en fait, il est basé sur les sentiments. Quand un amour est basé sur les sentiments, aujourd'hui, on dit donc qu'il y a de l'amour. Et du coup, on reprend sa liberté quand on sent que les sentiments sont entrés un peu en automne ou en hiver, comprenez. Or, ça c'est le véritable schéma qu'il nous faut retenir. C'est que la racine de l'amour se trouve dans la liberté d'aimer. Je décide d'aimer, et parce que je décide d'aimer, ça produit des sentiments. Les sentiments ne sont pas le fondement, mais sont le fruit de l'amour. Et quand un arbre perd ses feuilles, perd sa sentimentalité, est-ce que ça veut dire que l'amour est mort ? Regardez autour de vous, nous sommes en plein hiver et il y a autour de vous ici des arbres et notamment la vigne ici que je vois qui a perdu ses feuilles. Est-ce que la vigne est morte? Est-ce qu'il faut la déraciner pour autant? Où est la sève? Dans les racines. La sève retourne dans cet endroit qui s'appelle la liberté. Elle retourne dans cet endroit qui s'appelle la liberté. Et dans cet endroit, elle se recharge dans sa liberté de la décision d'aimer. Et cette décision d'aimer au printemps va redonner l'amour, et l'amour va redonner des sentiments. Mes amis, c'est le secret par lequel un amour peut durer toujours. C'est s'il revient dans les racines pour décider et redécider à nouveau. Et puis, avant-dernière étape, le Père va faire tuer le veau gras. Je vous l'ai dit, le veau gras a déjà été offert par Abraham à la Trinité, d'ailleurs, si on en croit saint Augustin, à la Trinité. Vous savez, lorsque, sous les chaînes de Mamré, Abraham court devant ces 3 hommes en disant « Seigneur », il va lui offrir un pain de farine, de fine farine, du lait caillé et un veau gras. Le veau gras représente la chose la plus précieuse que vous pouvez offrir dans le Proche-Orient ancien. Le Moyen-Orient ancien, pardon, le Moyen-Orient ancien, c'est la chose la plus précieuse que vous pouvez offrir à un hôte de choix. Et on comprend qu'Abraham ait offert ce veau gras à ces 3 anges, finalement, qui le visitent. Mais ici, c'est le contraire. C'est le Père qui représente la Trinité ici, qui va offrir, finalement, le veau gras au retour du cadet. Et bien sûr, ce veau gras représente l'holocauste des 4 êtres vivants qu'on trouve dans Apocalypse 4:7, le veau gras ici, le bœuf en fait de l'holocauste, le sacrifice. Vous avez l'aigle de la révélation, vous avez le fils de l'homme Une image qui vient du prophète Daniel, qui était très très utilisé du temps de Jésus, parce que le peuple d'Israël s'attendait vraiment à la venue du Messie. C'était impossible que le Messie ne revienne pas dans leur génération. Pour eux, c'était une évidence. Ils lisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup Daniel. Et Jésus, Luc, notamment, va reprendre cette image du Fils de l'homme. Et puis, vous avez, bien sûr, le lion de Juda, la tribu de Juda, le lion de la royauté, certainement Matthieu. Matthieu, Luc, Jean et Marc, quelque chose comme ça. Les théologiens ne sont pas tous d'accord, mais ça serait ça l'idée. Hein. Et donc, le veau gras donc, représente ce mets de choix qui est offert, cette fois-ci, à l'humanité en signe d'hospitalité et de bienvenue. Et puis enfin, ça se termine par la fête, la joie et la fête. Et vous savez, c'est le point commun dans cette grande parabole de Luc 15. Dans vos Bibles, il y a marqué « perdu et retrouvé », c'est le thème de Luc 15, « perdu et retrouvé, perdu et retrouvé, perdu et retrouvé ». La brebis perdue et retrouvée, la drachme perdue et retrouvée, le fils perdu et retrouvé. Mais il y a aussi un autre thème qui est très très présent et d'ailleurs qui traverse comme un fil rouge cette parabole en triptyque, c'est l'image de la joie. La joie qui n'est pas seulement le fruit de la recherche, mais on sent que c'est même la motivation de la recherche. C'est-à-dire que ce qui pousse le père, ce qui pousse le berger à aller chercher la brebis, ce qui pousse la femme à rechercher, ce qui pousse le père à aller vers son fils, c'est la joie. Et du coup, la joie qui se trouve à la fin est finalement l'expression de la joie qui était au départ. Il y a une joie dans le père. Il y a un théologien qui a dit ceci, le rire est un business sérieux dans le ciel. Le rire est un business sérieux dans le ciel. Et je crois que, autant, vous savez, la paix, pour moi, est le symbole de la victoire du Christ, autant la joie est le signe que votre âme est dans la maison du Père. C'est l'indication la plus certaine que votre âme est dans la maison du Père. Et l'exhortation de Paul prend tout son sens. Soyez toujours joyeux. Parce que la joie, c'est l'expression même de notre filiation dans cette maison. Le fait que nous ne sommes pas seulement dans la maison du Père, mais nous sommes aussi dans le Père de la maison. Nous sommes en relation avec lui et nous sommes dans cette joie. Et je vais vous dire une chose. Dans tous les séminaires que j'ai pu donner avec Master's Commission, ça fait plus de 10 ans maintenant, même plus que ça, ça fait 15 ans en tout cas. On termine toujours par un temps de séminaire, un temps d'intercession, de ministère, etc. Je vais vous dire une chose que j'ai constatée. C'est chaque fois que nous sommes dans ce temps de ministère, à chaque fois, le Père vient avec sa joie. Et à chaque fois, moi, je me mets en retrait. Parce que vous savez ce que je dis ? C'est, papa, j'ai passé une semaine à parler de toi. Maintenant, tu ne sais pas. Maintenant, c'est à ton tour. Et je m'assois et je dis aux jeunes, voilà, maintenant ceux qui veulent, vous allez juste ouvrir votre cœur et ce qui peut se passer en vous, c'est recevoir la paix. La paix, ce n'est pas une expression que l'on voit de l'extérieur, c'est une expression profondément intérieure. La justice, c'est un manteau qui vient sur vous, c'est quelque chose que vous allez ressentir sur vous. Et la joie, c'est quelque chose qui va passer de l'intérieur à l'extérieur. Et maintenant, papa, viens juste donner ces choses à tes enfants. S'ils le désirent, donne-leur. Et je peux vous dire que le Père est d'une fidélité, waouh, incroyable. Je me rappelle une époque, il fallait prier un quart d'heure, une demi-heure, trois heures sur la même personne pour commencer à la voir pleurer. Mais ce qui est formidable, c'est que quand on parle du Père, il y a quelque chose de... On est remis en contact avec la joie. Cette source abondante. Il m'a fait rentrer dans la maison du vin et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Voilà. Quel est le point qui vous parle le plus, et on termine comme ça, quel est le point qui vous parle le plus dans ces 11 points-là? Montrez-moi avec votre main. Alors pour le point 11, ça va être difficile, j'en suis conscient. Vous ferez avec le nez, vous ferez comme ça. Mais sinon, voilà, quel est le point qui vous parle le plus? Montrez-moi. Le point 6. Alléluia. Voilà. Elle a juste fait ça, tu sais, et boum, c'est parti. Et ben voilà. Vous comprenez pourquoi j'aime ce boulot ? C'est beau, hein ? C'est beau. C'est fou, hein, comme à une époque dans l'église, les pleurs avaient meilleur statut que les rires, comme ça. Ah. Alléluia. Cette fille qui dit ce matin, je crois que j'ai compris quelque chose de l'adoption. Je confirme. Je confirme. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est beau, hein. Moi, j'aime les rires. Vous savez, quand mes filles viennent toutes les trois à la maison, il y a des fois, elles rient jusqu'à des heures pas possibles comme ça, et j'entends leur mère qui dit « Non, ne réveillez pas papa. » Et moi, je dis « Attends, non, laisse-les faire, s'il te plaît, c'est tellement... » Et vous endormez dans les rires de vos filles, mais... Et pour un père, mais franchement, qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Et moi, j'aime entendre ces rires-là. Hein. Plus, Seigneur. Tu es son mari? Tu es son mari? Souffle sur elle. Souffle. Souffle sur elle, vas-y. Oui. Bon, faites attention, le prochain, je vais poser une autre question. Quel est le point que vous avez aimé? C'est la première à avoir répondu, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, les prochains, maintenant, c'est quel est le point qui t'a le plus parlé? Le 4, Manu, c'est le 4, c'est... Ah oui, la course du Père. Alléluia. Ah, arrive à la miséricorde du jugement. Alléluia. Quelqu'un d'autre? J'espère que vous prenez les 11 points, hein, comme cette sœur, d'ailleurs... Elle a dit 10, puis après 6, comme ça. Attends, 10, c'était quoi? Le Père va faire tuer le veau gras, c'était ça? Ou alors, elle a levé le nez, t'as levé le nez, hein, c'était le 11, c'était quoi? C'était le 11. J'aurais dû y penser. Cette fille aime le 11, ça ne m'étonne pas, tu vois. Yes! Allez, si vous voulez recevoir la joie, elle viendra prier pour vous, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, le point 11 pour cette sœur et le point donc 4. Ensuite, quelqu'un d'autre, vous avez levé la main, je crois. Ah, le Père qui a compassion. Amen. Alléluia. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire pour toi, la compassion aura beaucoup de sens. Hein? Ce que l'on voit du Père a forcément du sens pour nous. Tu vois, forcément du sens. Ouais. Alléluia. Alléluia. Ouh là là. Je ne sais pas comment tu vas terminer la réunion, Luc, mais... Il y a une présence de Dieu, là, du Père extra. Ouh. Un autre point, aidez-moi, venez à mon aide. Oui, merci. Oui, alors le frère avec les lunettes sur le... Alléluia. Le 8. Le Père remène à nous le partage de l'autorité. Alléluia. Le 11 aussi. Ben, reçois, mon ami, reçois. Il y avait une main levée, je crois, par là. Oui. Le 1. Ah, j'aime ça. Le Père se sacrifie. C'est incroyable, hein. Quelqu'un a aimé cette image du que je vous ai montrée, du papa qui est sur la joue de son fils, là, au moment où il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Vous comprenez pas, c'est pas en train de changer quelque chose, un paradigme dans notre tête, ça? Waouh. Oui? C'était le 1, alléluia, super. Ok, quelqu'un d'autre, oui? Le 4 aussi, la course du Père. Hein. Vous allez bien vous entendre tous les deux, hein, toutes les deux. Ça tombe bien, vous êtes de la même famille. Les sandales, ah oui, la liberté. Hein. C'est précieux, la liberté, hein, comme fondement de l'amour. Hein. Quelqu'un d'autre? Oui? Le don, ah oui, la justice, la plus belle robe. Hein. Il y en a combien de plus belles robes? Il y en a combien de plus belles robes? Amen. Il n'y en a qu'une seule. Oui? Le 2? Ouais, exactement. L'attente du retour. Alléluia. Qui encore? Le 5, oui. Le Père se jette à son cou. Ça, c'est beau aussi. Très bien. On a oublié des points? Le 11, toujours pour cette sœur là-bas. Le 11. Amen. Amen, plus, Seigneur. Voilà, le 11. Mais oui, mais prends-en plein. Voilà, voilà. Alléluia. Ça, ça parle de gratuité, ça parle, vous comprenez, de liberté, de... Punaise. Vous savez, il me semble que l'Église a souvent, a des fois été un peu chiante, vous voyez ce que je veux dire? Et quand il y a cette joie-là, ça fait du bien. Elle est de votre Église? Ah, vous venez d'arriver d'Aix-en-Provence? Elle riait déjà comme ça à Aix-en-Provence? Oui, oui, déjà. Ah ben, alléluia, alors. Alléluia. Donc ça va, ça va, on n'est pas responsable de cet état de fait. Quelqu'un d'autre. Personne m'a parlé du 10, du 9, par exemple. Ah si, si, le 9, si. Le 8, on en a entendu parler. Le 6, ah oui, le catéphilécène, là. Personne n'est preneur du catéphilécène. Ah si, quand même. Ah oui, si, le catéphilécène. C'est incroyable d'être lavé par Ok, Luc, je te donne le micro ou on termine par la prière maintenant? Ce que je propose, c'est que tous ceux qui ont cité un point, vous allez juste courtement remercier le Seigneur pour ce point en particulier. Quelqu'un prend le 1, c'était qui le 1? C'était toi. Tu remercies pour le 1. Le 2, c'était là. Tu veux bien remercier pour le 2. Le 3, c'était qui? Béatrice, le 3. Le 4, la course du Père, Manu. 5, tu veux bien? Le 6, les baisers du Père, tu veux bien? 7, la plus belle robe, je crois que c'était quelqu'un ici, voilà, la plus belle robe. L'anneau, il me semble que c'était là-bas. Les nouvelles sandales, c'était ici. Le veau gras. Ah, c'est Vito, il aime le veau gras. Alléluia. Pourquoi vous riez? J'aimerais bien savoir. Et le 11, je propose que ce soit cette sœur. Vous voulez bien? D'accord. Donc, s'il vous plaît, priez courtement, efficacement. N'attendez pas 10 minutes entre chaque prière. Enchaînez toutes les prières. Mais que ce soit une manière qu'on a de clore ce moment avant la réunion que Luc va avoir avec les Timothées. Ils sont où, les Timothées? Les Timothées, levez bien la main. Vous avez une réunion avec Luc, hein, tout de suite après.